Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Ma chronique Finance Vérité numéro 29 d'aujourd'hui a pour titre Dégâts dus à la bêtise et à son corollaire la prétention humaine. Dans l'actualité économique, plusieurs faits. Tout d'abord, les dégâts du nuage volcanique islandais. En 1986, le nuage de Tchernobyl, composé des poussières hautement radioactives d'éléments physiques les plus dangereux au monde, strontium-90, césium-137, iode-131, etc., contournait les frontières françaises grâce à une météo complaisante aux ordres de Pasqua. Les Français n'avaient rien à craindre. En fait, tous nos reliefs des Vosges, Massif central, des Alpes, des Pyrénées, de Corse, furent hautement contaminés et les productions agricoles avec de plus de 26 000 becquerels, sans que jamais le gouvernement n'ait même seulement tenté d'avertir les gens. Il y eut depuis une prolifération des cancers dus directement aux nuages. En 2010, un autre nuage, davantage fantôme, celui-là de poussière volcanique vitrifiée, recouvrirait la péninsule ouest européenne, au point d'avoir poussé les autorités françaises et bruxelloises à décréter une fermeture quasi complète de tous les aéroports de France, par souci louable de précaution a priori. De rien, on est passé à l'excès. Nos gouvernements et dirigeants ne savent décidément pas s'en tenir au juste milieu. Du coup, déjà, lundi, 63 000 vols avaient été annulés et les dommages économiques de cette précaution dépassent ceux dus aux attaques contre le Pentagone et le WTC le 11 septembre 2001, en atteignant déjà les 250 millions de dollars US. Nous assistons à une valse hésitation incompréhensible. En effet, le droit fondamental est clair. Les aéroports doivent rester ouverts, sauf à voir leurs pistes et leurs installations devenir impraticables, ce qui n'est pas le cas. Avant de prendre des mesures coercitives sur la circulation aérienne publique, il fallait déjà s'assurer de leur nécessité. Les vols tests ne furent entrepris que lundi. Un commandant de bord de la Lufthansa déclare goguenard à la télévision que son vol test s'est parfaitement déroulé sous un ciel bleu et dans des conditions estivales. Comme disait mon instructeur en 1980, signal météo de tempête de grand ciel bleu avec rafales dangereuses à deux nœuds. Aucun dommage à signaler du fait des poussières annoncées. La circulation aérienne publique doit rester libre. Le gouvernement n'a jamais eu le droit de fermer les aéroports. Son seul rôle consiste à prévenir les usagers via les tours de contrôle et les services météo. Les usagers sont et doivent rester libres et responsables de leurs décisions. Tout le monde rigole, sauf les centaines de milliers de passagers restés en rade un peu partout dans le monde. Angela Merkel, elle-même, dut revenir d'Amérique en passant par le Portugal, l'Italie et l'Autriche, alternant les vols et les transports terrestres. Nous voilà bien loin de la route orthodromique la plus courte et la plus économique. Les dégâts des retraites publiques. Les retraites exigées en contrepartie des épargnes privées véhiculées dans les caisses des régimes généraux et spéciaux posent sans arrêt des problèmes de solvabilité à des régimes insolvables par nature puisque chaque année se termine dans le rouge depuis des décennies. Les caisses sont vides. Ce sont des caisses à capitaux disparus. Les droits à la retraite sont assis sur un nuage de rêve et soutenus par du vent. Les retraites du secteur public, extraordinaires du droit commun, seraient, paraît-il, versées sur la base de la dernière année fiscale et on a appris la semaine dernière que l'État, si exigeant envers les autres, serait incapable de dire ce qu'il a versé à chaque fonctionnaire depuis 45 ans. Il y aurait un blocage technique incapacitant. L'État ne serait pas capable d'aligner le régime des fonctionnaires en retenant les 25 années, les meilleurs, à l'instar de la loi sur les privés. En sus, ils se trouvent dans l'obligation de réduire les dites retraites publiques, car elles dépassent de 104 à 118% suivant les estimations du PIB, et représentent donc un passif social exorbitant, jamais comptabilisé. Disons-le tout net, non seulement l'État ne rend pas le travail le plus élémentaire qu'il doit, mais il est un prévoyant et a laissé la comptabilité nationale dans un état de délabrement qui explique sans aucun doute, pour une bonne part, les dysfonctionnements budgétaires, avec à la clé les déficits chroniques, mais également l'appropriation par les fonctionnaires du vide comptable étatique à leur profit. Ils ont en effet inventé deux avantages indus. La base de retraite sur le dernier exercice fiscal, laquelle les avantages outrageusement sur les cochons de payants privés, et l'emploi à vie prolongé jusqu'à la mort, toujours aux dépens des mêmes. Les dégâts de la censure islamique sur la nourriture. Qu'ils soient musulmans ou pas, les humains de nationalité française doivent dorénavant manger halal et exclure la viande de porc de tous les menus dans les avions, les trains, les bateaux. À Martigues, les boutiques, les supermarchés, les restaurants n'offriraient plus que de la nourriture halal. Le résultat de cette pratique est que sur chaque viande consommée et chaque plat cuisiné halal, l'imam du coin perçoit une taxe simplement pour apposer sa signature. Il s'agit bien d'une censure à laquelle sont désormais soumis aussi bien les musulmans que les autres, les pratiquants ou les non-pratiquants. On voit bien le dégât. La République française facilite l'installation d'un nouvel État islamique percevant impôts en sus des siens. Impôts qui, au contraire du denier de l'Église ou des quêtes après les messes catholiques, n'est donc pas facultatif, lui. Mon conseil patrimonial du jour. Les dégâts du nuage des dettes titrisées sur le monde financier montent en puissance dévastatrice. Standard & Poor's a beau déclasser des entreprises à la note CCC, faisant donc son travail de mise en garde du public, cette notation signalant une probabilité de défaut élevée ne constitue plus l'obstacle insurmontable ancien à la levée de fonds sur les marchés financiers. On voit des entreprises en faillite appeler des fonds obligataires pour rembourser leurs crédits impayables bancaires comme Reader's Digest pour 525 millions de dollars ou Lyondell Chemical pour 2,3 milliards de dollars. Pourtant, en dessous de BBB-, le surnom donné aux titres obligataires émis est celui de dette pourrie. Comment y comprendre quelque chose quand des entreprises comme Pernod Ricard, Peugeot ou Renault deviennent des anges déchus, venant remplacer les entreprises en faillite renflouées artificiellement? Encore une fois, vous ne devez plus gérer vous-même un portefeuille sans un bon conseiller financier authentique et donc indépendant à vos côtés personnellement, en dehors donc de toute structure bancaire ou assimilée. Troisième partie enfin, mon histoire de la monnaie. Errare humanum est, perseverare diabolicum, et ô combien. Conclusion. Les dégâts de 2695 ans d'histoire monétaire stricto sensu sur l'Occident. Nous avons tout d'abord parcouru l'histoire de l'introduction d'une monnaie dans les échanges au fil de nos chapitres 1 à 14. Naturellement, le choix s'est porté sur une marchandise ayant les qualités souhaitées, l'or ou l'argent. Nous avons vu comment a été complétée la circulation métallique par la monnaie papier, reconnaissance de dettes payables en métaux nobles d'abord, dans nos chapitres 15 à 17. Nous avons vu ensuite dans nos chapitres 18 à 21 comment ces reconnaissances de dettes sont devenues impayables et ont été imposées dans les échanges, cours forcés, puis complétées elles-mêmes dans une quantité 20 fois supérieure par la monnaie crédit des banques. Créditer le compte d'un client de sommes inexistantes constitue une escroquerie qui valut la pendaison ou la décapitation aux banquiers, ministres et autres jusqu'au début du XXe siècle. Il s'agit tout simplement de la généralisation de l'ancienne découverte postérieure au code d'Hammurapi mésopotamien suivant laquelle il est toujours possible à quelqu'un inspirant la confiance, par exemple les banquiers, d'émettre plus de dettes qu'il n'a de solvabilité réelle en comptant sur la loi des grands nombres, loi qui postule que tout le monde ne va pas en même temps se faire payer. C'est la loi de base de toutes les escroqueries bancaires actuelles. Cette escroquerie, déjà inadmissible, est aujourd'hui amplifiée par l'invention de la titrisation par le ministre anglo-saxon Brady, comme nous l'avons expliqué dans notre chapitre 27. Cette invention est ni plus ni moins que celle de la bombe nucléaire monétaro-financière. Mais son explosion est masquée dans les réacteurs réservés aux initiés et le public est dorénavant devenu esclave du système d'escrocs. Tout notre travail a eu pour but de donner au public les moyens d'y voir clair et donc, espérons-le, d'exiger le retour à la liberté, donc à une monnaie commune à tous et à un crédit sincère et véritable basé sur des réalités. Le public doit exiger la fin de cet esclavagisme bancaire. Rappelons ce que dit Wikipédia sur la monnaie. C'était également dans les cours de CAP Banque de 1963. C'est un instrument de paiement spécialisé, accepté de façon générale par les membres d'une communauté en règlement d'un achat, d'une prestation ou d'une dette. Elle a trois fonctions principales. 1. La fonction d'intermédiaire dans les échanges. 2. La fonction d'expression d'unité de compte pour le calcul économique ou la comptabilité. 3. La fonction de réserve de valeur. Cette fonction ne peut pas être remplie par les banques insolvables. Certains auteurs considèrent que la capacité d'éteindre des dettes et des obligations, notamment fiscales, constitue une quatrième fonction, appelée pouvoir libératoire de la monnaie. Cette fonction est complémentaire du cours forcé décrété après que les billets sont restés impayés. Une monnaie se caractérise par la confiance qu'ont ses utilisateurs dans la persistance de sa valeur et de sa capacité à servir de moyen d'échange. Elle a donc des dimensions sociales, politiques, psychologiques, juridiques et économiques. Selon Aristote, qui vécut de moins 384 à moins 322 avant Jésus-Christ, c'était il y a 2400 ans, l'accumulation de la monnaie pour la monnaie est une activité contre nature et qui déshumanise ceux qui s'y livrent. Suivant l'exemple de Platon, il condamne ainsi le goût du profit et l'accumulation de richesses. Il y a en effet confusion entre le moyen et la fin. L'argent est un moyen pour échanger des valeurs d'usage en vue de satisfaire la vie. La crématistique ne consiste en revanche qu'à accumuler la richesse comme fin en soi, comme si celle-ci en elle-même pouvait épanouir l'être humain. L'édit de Saint-Louis de 1269, stigmatisant les usuriers par le port d'une rouelle de drap jaune, n'avait pas d'autre fin que de mettre en garde le peuple contre ces parasites. En 2010, les banquiers mondiaux dépassent en la matière tout ce qui fut fait dans toute l'histoire de l'humanité. Aristote fut le premier à réfléchir sur la nature de la monnaie. Il en a présenté les quatre caractéristiques essentielles. Durable. La monnaie doit passer le test du temps et des éléments, elle ne doit ni s'abîmer, ni rouiller, ni changer en cours du temps. Portable, une bonne monnaie doit contenir une grande quantité de valeur par rapport à son poids et sa taille. Divisible, une monnaie doit pouvoir être aisément séparée et recombinée sans pour autant affecter ses attributs fondamentaux. Une extension de cette idée, c'est que la chose doit être fongible, c'est-à-dire définie comme librement échangeable ou remplaçable en tout ou partie, pour une autre de même nature ou de même sorte. Et enfin, avoir une valeur intrinsèque. Cette valeur de la monnaie doit être indépendante de tout autre objet et contenue dans la monnaie elle-même, en commençant par sa rareté. Ceci est la base même de la liberté et la garantie contre l'esclavage. Un billet de banque coloré n'a aucune valeur intrinsèque. Il est évident qu'Aristote ne pense qu'à une monnaie matière. La fonction 1 d'intermédiaire dans les échanges présuppose la possession de la monnaie et la certitude de pouvoir refaire l'échange premier à l'envers, fonction 3, c'est-à-dire de rééchanger la monnaie contre le bien vendu et retrouver ce bien exactement similaire en rendant cette même monnaie en contrepartie. Cet échange doit pouvoir se réaliser n'importe quand dans l'avenir. La monnaie s'apparente alors à une tare dans la double pesée de Bordaz. Ces deux fonctions pratiques ne peuvent exister que si la qualité durable est certaine. C'est cette nécessaire durabilité qui a conduit les anciens à retenir l'or, qui est apparu très tôt comme réunissant toutes les qualités d'une bonne monnaie. L'or est également ductile, fongible et fractionnable. Il ne s'oxyde pas. L'argent a toujours été considéré comme arrivant en seconde position car il noircit par oxydation à la longue. L'or n'en finit pas de se révéler unique en son genre dans la nature, puisque l'on vient de constater ces dernières semaines que, chauffé à 1 milliard de degrés, il durcit. Il est donc impossible à imiter parfaitement. Numéro 79 de la nomenclature Mendeleïev des éléments. Il a donc toutes les qualités identifiées par Aristote pour remplir les fonctions utiles. Le fractionnement permet une comptabilité par attribution d'un certain poids d'or à l'unité de compte. C'est là que réside le grand péché originel monétaire. Pour bien comprendre, il faut tirer les curseurs du raisonnement au maximum. Si depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ, moins 685 avec Gigès, fils de Mernas, était le roi de Lydie de 708 à 670 avant Jésus-Christ. Puis au cours du 6e siècle, moins 550, Crésus, son descendant. La valeur de l'unité de poids, or, monétaire, de compte, avait été fixée au terme d'un raisonnement, prévoyant toutes les évolutions démographiques et économiques futures sur des données réunies avec soin grâce à des connaissances que nous peinons encore à réunir aujourd'hui. Les anciens auraient évité tous les désordres constatés depuis les 1500 fixations empiriques de pouvoir d'achat des monnaies émises du 7e siècle avant Jésus-Christ avec sa célèbre réplique et toutes les suivantes depuis lui jusqu'en 2010. En fait, le pouvoir d'achat d'une unité de compte a été trop faiblement estimé. Il a alors fallu toujours plus d'or à valeur intrinsèque constante d'abord pour effectuer tous les échanges en croissance exponentielle jusqu'au moment où la quantité d'or commença à manquer, provoquant des ruées vers les filons cachés. Depuis environ le 15e siècle, nous manquons d'or car son pouvoir d'achat est resté trop faible. Si ce pouvoir d'achat avait été fixé dès le départ très très haut, nous ne manquerions toujours pas d'or dans les échanges. La monnaie divisionnaire, également de pouvoir d'achat très élevé mais moindre, l'argent pur, car plus répandu, aurait comblé les échanges de moindre valeur. Seulement voilà, il y a 25 siècles, l'or et l'argent étant abondants, la fixation empirique, même intelligente et sage, de la part de Crésus, roi prévoyant, fut adaptée à l'idée que se faisaient de la monnaie les gens de l'époque. Un roi qui aurait dit qu'il fallait fixer le pouvoir d'achat intrinsèque d'une petite pièce d'or, Créséide, à la valeur totale de toute l'Anatolie, voire de l'Inde entière, se serait heurté à une ruée vers l'or natif du pactole, volé aussi sec, et à une dévaluation rapide devant l'absence de contrepartie naturelle. Retour au statu quo ante. C'était donc impossible. La raison, la déesse de la raison de la République, fut donc à la base du péché monétaire de l'Occident. Jacques Rueff fixa en 1964 à 400 dollars l'once la valeur du pouvoir d'achat nécessaire pour remettre tout le système monétaire sur les rails. Aujourd'hui, nous avons livré le calcul de 9 millions de dollars US pour éponger les 45 millions de milliards de dollars US de dette globale rien que des États. On voit le caractère exponentiel et pour tout dire, asymptotique de l'évolution des 45 dernières années. Le manque de pièces d'or, entraîné par la sous-évaluation chronique, a entraîné une pénurie de liquidités or. Depuis 5 siècles, le recours à la monnaie reconnaissance de dette a entraîné l'endettement excessif, la faillite des banques centrales. À ces erreurs déjà grossières, fut additionnée l'erreur majeure en 73-76, conférence de la Jamaïque, de la ruée dans le décrochage des monnaies papier de toute référence à l'or, considérée comme la relique barbare. En fait, la disparition de la valeur intrinsèque matérielle de la monnaie a fait disparaître en même temps la liberté des échanges. Aujourd'hui, la dévaluation ultra rapide des signes monétaires en circulation vient de leur dématérialisation qui permet aux émetteurs une émission illimitée. Il s'ensuit une course incroyable à la richesse qui a dépassé désormais les limites des ressources naturelles, mondiales, globales, et réduit en esclavage ceux qui n'ont pas le pouvoir d'émission et doivent gagner par des échanges de travail sans cesse dévalués. La monnaie aussitôt dévaluée, dont ils ne peuvent plus se servir pour vivre et se chauffer, sans parler de se déplacer. On retrouve désormais la clairvoyance d'Aristote en la matière avec l'épuisement prévisible et prévu des ressources naturelles encore renforcées par la tyrannie, fille de la République selon Platon. Le régime politique enfanté par la faillite monétaire conforte les escrocs qui émettent autant de monnaie qu'ils veulent pour racketter à ce poker menteur gigantesque tous les travailleurs du monde. La difficulté n'est pourtant pas si grande pour assainir les échanges mondiaux et locaux. Il suffit de s'entendre honnêtement au plan mondial sur la valeur à redonner à l'or pour le présent et pour le futur. Aussitôt, comme le rappela De Gaulle dans sa conférence de 65, les échanges redeviendraient honnêtes car exigeant la dépossession matérielle de monnaie or durable à valeur intrinsèque fixe égale parité contre le solde des échanges de biens et de services, c'est-à-dire les balances commerciales et de règlement. Surtout, tout le monde reviendrait alors sur un pied d'égalité. Quand on paye, on n'a plus. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La solution est donc salutaire et redeviendrait compréhensible par tout le monde car concrète. Comme on le voit, la sortie de la conduite forcée vers la catastrophe existe. Il suffit que tout le monde veuille redevenir honnête et vivre dans un monde où la justice vraie règne. Il faut sortir du couple, caste dirigeante escroc vivant aux dépens des peuples entiers d'esclaves comme du temps de Rome. La République de Rome est l'exemple le plus néfaste disponible pour pousser tout le monde à sortir à la fois du régime politique produit par la caste des patriciens pour perpétuer l'esclavage du plus grand nombre de plébéiens. Cette caste esclavagiste en est même arrivée à détruire la couche intermédiaire des équites qui fournit pourtant les médecins, les techniciens, ingénieurs, architectes nécessaires à la création et à la maintenance de toute civilisation. Le régime se suicide avec son anti-monnaie satanique, mais combien de temps va durer encore l'esclavage du plus grand nombre ? Combien de temps encore allons-nous apprendre que des escrocs produisant de leur propre aveu des monstruosités financières, comme Kerviel ou Touré, accumulent des 4 milliards de dollars par an, pendant que le SMIC, généreusement distribué à des ingénieurs, s'élève au plafond de 2000 dollars par mois. Un rapport de 1 à 2 millions d'unités de compte entre un ingénieur, travailleur, cadre et un escroc ayant pignon sur rue. Chacun voit bien qui sont les salopards à abattre et où sont les vraies valeurs. Chacun voit bien que le métier de banquier est fort honorable lorsqu'il est pratiqué honnêtement, c'est-à-dire dans le respect de l'égalité des voies et moyens économiques, c'est-à-dire le droit commun des entreprises, est de nos jours dévoyé. Chacun voit bien que le pouvoir politique est à la solde des escrocs. Nous devrons donc suivre pas à pas. D'une part, les efforts faits par certains pour rasseoir le système monétaire sur une base solide, honnête, durable et égalitaire. Et d'autre part, la progression de la malhonnêteté du système politique, lequel a déjà scié plusieurs fois la branche sur laquelle il était assis. De combien de vies dispose la République avant de s'effondrer sous son propre poids de fautes graves et d'escroqueries ? La République romaine a mis 450 ans à s'effondrer. Espérons qu'à la vitesse supersonique où s'effondre la nôtre, la sortie du tunnel soit pour bientôt. Souhaitons-le ardemment et appelons Jésus-Christ et la Providence à nous libérer le plus vite possible. C'est pour hâter cet événement heureux que je vous livre ma contribution en 2010. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur.